l'honneur de venir nous présenter cette conférence. Moi, je vous présente en quelques mots. Hein. Donc, je vais dire tout bêtement, parce que j'ai très peu peur d'oublier des titres. Professeur de mathématiques et stratégie aux universités, École de sécurité nationale, de l'armée de l'air, de défense nationale, conseiller stratégique au ministère de la Défense, conseiller scientifique au ministère des Affaires étrangères de Grèce, et expert de justice près de la Cour d'appel de Lyon, et plus précisément, traducteur interprète en grec. Voilà, c'est bon.
Merci. Je commence, je pense. J'ai pas besoin de ce micro.
Non, là, je sais pas comment ça s'éteint, c'est chaud.
Voilà. Donc je pense que c'est audible. Alors je disais juste avant que c'est intéressant d'avoir des gens de la parole, inviter des gens du silence. Donc on fera intervenir des notions mathématiques, des notions philosophiques. Je pense que vous êtes conscients tous que la notion de paradoxe joue sur les deux. On va commencer simplement, ce sera un développement, disons, exponentiel. Vous pouvez intervenir, il ne faut pas que ça vous dérange. N'attendez pas la fin. Vous savez, avec les mathématiciens, quand vous donnez le doigt, ils vous prennent la main, après c'est le bras. Donc si vous êtes d'accord au début, inquiétez-vous. Si vous êtes d'accord à la fin, c'est pire. Parce que nous, on travaille beaucoup sur la notion de paradoxe, aussi bien quand on développe des théories sur le plan stratégique. Alors, le paradoxe, vous savez, donc ça vient du grec, en fait, c'est ce qui est contre l'opinion commune. D'ailleurs, pour faire plaisir à Julie, qui est toujours laudative envers moi, en grec, on n'a pas le trop. On a le très beaucoup, équivalent, mais il n'y a jamais trop. Donc, j'ai aussi un ami linguiste qui dit toujours « Je ne mens pas, j'exagère ». Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de quantification, quand vous êtes dans le qualitatif, c'est très difficile de définir les problèmes de limites. Donc, on va essayer de démarrer par les limites. Alors, la première fois qu'on a une apparition de la notion de paradoxe, c'est dans une lettre de Pierre qui raconte quelque chose sur Épiménide. Donc, il ne le cite pas, il est un prophète. Vous savez, c'est la célèbre phrase « Tous les Crétois sont des menteurs ». Il s'avère qu'Épiménide est crétois. Ce n'est en réalité que plusieurs siècles après qu'on comprend que cette phrase est paradoxale. Au moment où elle apparaît dans la Bible, personne ne le remarque. Les vrais paradoxes, si vous voulez, vont apparaître en fait avec Zénon d'Élée. Donc il y a des fameux paradoxes, ouais, certains d'entre vous qui hochent déjà la tête, c'est un danger pour eux, parce qu'ils sont déjà en partie d'accord. Je vais vous donner un exemple pour vous dire combien c'est difficile d'être d'accord sur des choses qui ne sont pas évidentes. En réalité, si vous prenez le paradoxe de Zénon d'Élée, tout le monde va vous dire « Zénon n'était pas très intelligent puisqu'il ne connaissait pas les suites convergentes ». Et c'est pour cette raison qu'il développe cette théorie. Alors, on va essayer de le faire à l'oral. Donc, il dit que pour aller du point A au point B, il faut nécessairement passer par le milieu. C'est implacable. Ensuite, on a l'impression qu'il dit que pour aller du milieu au point final, il faut passer aussi par le milieu. Alors ça, c'est le langage qu'on utilise même en France, au niveau universitaire. Ce n'est que récemment qu'en fait on a relu le travail de Zénon. Alors il faut savoir que la difficulté provient aussi des philologues, donc des spécialistes si vous voulez. Dans quel sens? On a des fragments simplement de l'œuvre de Zénon, donc elle est transcrite par Aristote. Or Aristote n'avait pas compris le paradoxe. Donc essayez de vous imaginer dans une situation où vous créez une théorie, le seul type qui ne la comprend pas, c'est le seul qui va écrire sur cette théorie, et on ne saura quelque chose de cette théorie que par lui. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, vous imaginez le résultat. Le résultat, donc, c'est que Aristote, déjà à son époque, critique donc Zénon en disant que ça ne se tient pas. En réalité, ça se tient très bien, donc on va essayer de le montrer. Ce que dit Zénon, en réalité, ce n'est pas qu'on a une suite convergente, donc on n'a pas 1/2 plus 1 quart plus 1 huitième, et tout le monde sait que ça converge vers le 1. Non, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on ne peut pas démarrer. C'est-à-dire qu'il dit le contraire. Donc quand vous prenez cette série et vous la relisez à l'envers, bien, vous allez vous comprendre que vous ne pouvez pas la démarrer. Je m'explique, parce que je vois que vos têtes ne hochent plus maintenant. C'est le problème, on va, vous savez, en fait, quand on a une difficulté à comprendre une notion, nous, on établit un isomorphisme et on dit que cette notion est équivalente à une autre, qui est beaucoup plus claire. Alors, on va faire cet essai. Donc, imaginez maintenant que vous êtes dans la droite réelle, les réels, les nombres réels. Vous êtes placé sur le 0. Et je vous demande, quel est le nombre réel suivant, supérieur à 0? Vous voyez, la question est simple. Alors? Non, non. En fait, si vous dites le 1, je pourrais dire le demi. Voilà, donc c'est intéressant de voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une belle erreur. Hein? Donc on aura aussi des erreurs moches, donc sans intérêt. Et les belles erreurs sont utiles. C'est que si j'avais posé la question dans les entiers, ce serait la bonne réponse. Si j'étais dans les entiers relatifs, ce serait encore la bonne réponse. Dès que je rentre dans les réels, dans le R avec la double barre, quel que soit le nombre que vous allez me donner, je pourrai toujours prendre la moitié. Donc il ne pourra pas être le suivant. Donc en réalité, ce qu'il dit, ce paradoxe de Zénon-Délé, il dit que si vous modélisez l'espace comme un continuum, donc vous le modélisez comme la droite réelle, vous ne pouvez pas avoir de mouvement. Donc, Diogène, quand il entendait ce genre de choses, comme il ne savait pas répondre, il se levait et il marchait. Il dit, c'est bien la preuve que le mouvement existe. Alors, en général, quand vous êtes ramené à bouger avec votre corps sur un problème qui est spirituel, c'est que vous avez déjà raté le coche. Alors, pourquoi? Ben, vous pouvez le voir dans le dialogue avec Zénarel et Don Juan, quand ils vont échanger leurs habits. Zénarel va dire, maintenant j'ai l'impression de parler comme Don Juan, donc il va parler. Au début, Don Juan lui répond, et puis au bout d'un moment, Don Juan ne lui répond plus du tout. Et alors, là, d'un seul coup, Zénarel se rend compte que n'ayant plus de mur à pousser, il ne sait plus où aller. Et il tombe de cheval. Donc là, c'est pareil, c'est qu'en fait, Diogène ne comprend pas le raisonnement mathématique, donc il dit, mais quand même, si moi je bouge, c'est que le mouvement existe. En fait, ce que dit Zénon, grâce à ce paradoxe, c'est qu'on ne peut pas coder l'espace comme un continuum. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la droite réelle pour le coder. Alors on va le voir avec d'autres paradoxes, en particulier le paradoxe de Banach-Tarski. Alors je vous le garde pour tout à l'heure, pour ne pas vous énerver dès le début, parce que celui-là, il est quand même assez exaspérant, puisqu'il exaspère déjà les mathématiciens. Alors vous imaginez les gens qui sont hors du domaine. Mais je pense qu'avec cette introduction, je vous ai quand même suffisamment prévenu. Donc, si vous vous énervez, c'est que ça ne suffisait pas. Alors, tenez-vous bien, vous prenez une sphère pleine. Je crois qu'il y en a qui prennent des notes, se disent ça va être compliqué celui-là. C'est vrai, vous avez raison. Là, vous prenez une sphère pleine, d'accord, homogène. Ce qui est la sphère la plus normale que vous pouvez prendre, d'accord. Vous la découpez. Et depuis 1927, on connaît le théorème donc de Banach-Tarski, qui est souvent appelé paradoxe. Il y a une façon de recomposer les éléments que vous avez coupés la sphère pour créer deux sphères de même taille, de même rayon, de même masse, de même densité. Voilà. Ça ressemble quand même à la multiplication des petits pains. La différence, c'est qu'ici, ça marche. Donc, vous pourriez me dire, mais comment c'est possible? Alors, le théorème vous dit qu'il existe une façon de faire. Alors, les mathématiciens ont travaillé sur ce théorème, c'est pour ça que ça représente une évolution, et ils se sont rendus compte, en fait, qu'on pouvait rajouter même une information, c'est qu'on peut découper la sphère en un nombre fini. Donc, vous voyez, parce que des fois, quand on a l'infini, on se dit, bon, à l'infini, il y a un peu un fourre-tout, on va y arriver, mais quand c'est fini, là, ça commence à être un peu plus exaspérant. Et en fait, en 1956, on a fait une amélioration. On a même montré qu'il suffisait de 5 éléments. Donc je la refais. Vous prenez la sphère, vous la découpez en 5 morceaux. 5, pas plus. Vous les recomposez et vous faites 2 sphères qui sont identiques, de même masse, de même taille. Alors donc, ça paraît vraiment paradoxal et on se dit, mais comment c'est possible? En fait, ce qui est possible, c'est de nouveau, c'est une réaffirmation du paradoxe de Zénon, dans quel sens? C'est que vous ne pouvez pas utiliser, dans ce cas-là, R3, les nombres réels au cube, donc l'espace. Nous avons tous l'impression qu'il permet de coder l'espace. Et en réalité, s'il permet de coder cet espace, alors il permet aussi l'existence de ce théorème, qui est quand même vraiment à l'encontre de toute la physique. Donc, ça prouve que vous ne pouvez pas utiliser R3 pour coder l'espace à 3 dimensions. Parce que R3 est en fait beaucoup plus vaste que ce qu'on pense, puisqu'il permet ce genre d'objet. Alors, vous voyez, les paradoxes, il y en a toute une multitude au cours de l'humanité. On a aussi le paradoxe de Hulbert, qui va quand même un peu vous perturber. Dans quel sens? C'est un paradoxe qu'on trouve en astronomie, qui est toujours pertinent. Vous pourrez aussi le demander à votre entourage, histoire d'augmenter la perturbation. Pourquoi la nuit est noire? Alors, vous voyez, on a un problème. Si l'espace est infini et qu'il y a une infinité de soleil, eh bien, cette double infinité vous permet d'avoir une clarté en permanence. Donc, en fait, la nuit devrait être lumineuse. Or, la nuit est manifestement noire. Donc on a un problème, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Hulbert. Comment s'en sortir? On s'en sort pas très bien en début, parce qu'il faut déjà avoir une finitude de l'univers. Alors on se dit, ben, si l'univers est fini, il ne pourra pas avoir une infinité de soleil, donc on ne pourra pas avoir un rayonnement de partout. En réalité, s'il est fini et courbe, on peut quand même encore l'avoir. Donc, ça veut dire qu'une théorie physique, cosmologique, qui décrit ce phénomène, doit pouvoir le résoudre, ce paradoxe. Ça ne veut pas dire forcément que si elle le résout, c'est une théorie adéquate. Alors là, il faut rentrer directement dans la théorie de la relativité générale. On ne le fera pas tout de suite, on le fera un peu après. Simplement pour vous indiquer qu'il y a des questions qui sont réelles, qu'on voit, et on évite de se poser la question. Donc là, le but de la conférence, c'est de vous poser une série de questions perturbantes, aussi simples que possible. Par exemple, quand vous regardez la Lune, pleine Lune, est-ce que vous voyez la moitié de la Lune? Un peu moins de la moitié de la Lune? Ou un peu plus que la moitié de la Lune? Vous voyez, c'est un... Comment? Alors, c'est basé sur quoi quand vous dites un peu moins?
L'angle de vision.
L'angle de vision. Alors, donc, je vais reposer la question pour vous faciliter la vie et comprendre qu'il y a une difficulté. Vous le voyez un peu moins parce que la face de la Lune est un peu moins éclairée. Et éclairée ou un peu plus éclairée? Oui, mais est-ce que le ballon est éclairé à moitié, moins de la moitié ou plus? Il sera éclairé comment alors? Vous voyez, dans les paradoxes, en fait, quand on commence à dire oui, après on réfléchit, après on dit peut-être non et après on redit oui, on se dit maintenant c'est plus très clair. Alors qu'au départ, quand on dit que c'est clair, c'est souvent qu'on est dans le faux. Après, quand on a le doute, on commence à être dans le vrai, mais des fois, après, quand on insiste, on se demande si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, je vais continuer là-dessus. Prenons le paradoxe de la poule et de l'œuf. C'est simple, ça, quand même, non? C'est-à-dire que tout le monde accepte que c'est quand même un paradoxe. Ça n'en est pas. On sait le résoudre. on sait le résoudre avec le fameux mot de Kolakowski. Alors le mot de Kolakowski, mathématicien polonais, permet en fait de coder ce paradoxe. Alors comment vous le codez? Vous le codez en écrivant simplement 1 et 2. Donc vous choisissez lequel des deux c'est le 1, lequel des deux c'est le 2, et vous écrivez une suite. Alors, une fois que vous écrivez la suite avec les 1 et les 2, donc imaginons que vous commencez par le 2, vous allez réfléchir comment la suite s'écrit. Alors, si elle voit 2, ça va être la définition du mot de Kolakowski, on va pouvoir dire qu'il faut écrire 2 fois 2. 2 et 2. Pour avoir une longueur 2. C'est-à-dire qu'en fait, la suite, quand vous la lisez de façon sémantique, vous découvrez sa syntaxe. Donc quand vous voyez 2, vous écrivez 2, 2. Quand vous voyez un deuxième 2, maintenant vous devez écrire 1, 1 pour aller à la suite. Parce que si vous écriviez 2, alors vous aurez dû écrire 3 au début. Vous voyez, vous avez le droit uniquement à 1 et 2. Et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez coder cette suite. Alors attention, c'est un peu perturbant parce que vous êtes capable de coder cette suite, alors que pour la coder, il faut connaître comment elle est codée dans l'avenir pour la coder dans le présent. C'est la poule et l'œuf. Alors, quand vous codez en fait la poule et l'œuf, vous faites une énorme erreur, c'est que vous considérez que la poule et l'œuf, c'est toujours le même objet. En réalité, c'est la même classe d'équivalence, mais pas le même objet. C'est-à-dire que si je prends la poule, l'œuf, la poule, l'œuf, la poule, l'œuf, et si je fais une projection, je vais avoir une seule poule, un seul œuf, et je vais créer un paradoxe. Alors que si j'utilise cet espace dynamique avec une simple double classe d'équivalence, on n'a aucun problème pour le résoudre le problème. Mais vous êtes encore persuadé que, quand même, c'est la poule et c'est l'œuf. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes enclavé dans le processus linguistique et pas le processus sémantique. Je reprends un autre exemple. Socrate dit « Je sais que je ne sais rien ». Tout le monde est d'accord. En grec, pour faire plaisir à Julie, c'est « Isa oti ouzen isa ». Alors, c'est encore plus perturbant s'il y a moins de mots. Et le problème, en fait, c'est que quand il dit « c'est », S-A-I-S, il l'utilise deux fois. Mais c'est pas le même. Parce que si c'était le même, ben, il saurait quelque chose. Donc ce serait faux. Si c'est pas le même, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la même classe d'équivalence alors qu'on a le même terme. En réalité, dans la phrase, si on la code maintenant, on a une phrase et une proposition en termes de connaissances, je sais ou je ne sais pas, et puis là, il y a une phrase qui est une proposition de termes de métaconnaissance. C'est-à-dire que là, je sais qu'en dessous, je ne sais rien. Donc en fait, c'est de la pensée sur de la pensée. Alors, pour vous donner une idée, donc, on va considérer que l'intelligence, c'est le noyau de base, la pensée, c'est l'extension de l'intelligence, avec le substrat, et ensuite, la pensée de la pensée, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous entendez des choses du type « Est-ce que les ordinateurs pensent ?» C'est évident. Vu ce qu'on définit comme pensée. Le problème, c'est pas ça. C'est « Est-ce qu'ils savent qu'ils pensent ?»
C'est ça.
Pour l'instant. Vous savez, nous, on est très fluide. On change. Parce qu'on évolue, avec les connaissances scientifiques. Quand vous allez avoir des problèmes en bioéthique, certains d'entre vous seront même peut-être spécialistes, ça vous nous permet de nous poser des questions dont l'énoncé nous semblait pas seulement utopique, mais simplement impensable. Alors vous imaginez en plus une fois que vous l'avez pensé. C'est un peu le problème des paradoxes. Alors, vous voyez, au départ, vous avez l'impensable. Les génies du paradoxe permettent de rectifier l'impensable et de le ramener à l'utopie. La société considère que c'est toujours une utopie, donc ce n'est pas réalisable. Et puis après, il y a une autre société qui arrive, qui elle ne sait plus très bien si c'est une utopie ou pas. Alors elle finit par le concrétiser. Vous voyez ? Donc, pour vous rappeler un peu, c'est un peu ce qui est décrit dans Marcel Pagnol, il y avait un village où il n'y avait que des sages, qui savaient qu'une chose était impossible. Et puis un jour, il y a un fou qui est venu, lui, il ne le savait pas, il l'a fait. Donc, le problème de l'enclavement, aussi bien au niveau linguistique, va poser des problèmes sur le plan philosophique. Donc ça a très bien été décrit dans les jeux de langage de Wittgenstein, où on a l'impression qu'on parle d'un problème conceptuel, alors qu'en réalité c'est un problème d'ordre linguistique. Donc on va essayer de voir, vous voyez c'est pareil, la référence à Socrate, c'est du même type pour Descartes. Descartes va dire que je suis certain qu'on n'est jamais certain de rien. En réalité, c'est simplement un transport de structure. Il dit exactement la même chose. Quand il dit « je pense, donc j'existe », vous imaginez ce qui se passerait si c'était vrai. En réalité, il a une sorte d'isomorphisme qui lui permet de dire que finalement, je définirais l'existence via la pensée. Donc, on pourrait se poser la question à l'envers. Est-ce qu'un verre existe? Mais Descartes ne répond pas là-dessus. Il dit, moi qui pense, je sais que j'existe. Ça, s'il ne pense pas, il ne peut rien dire sur son existence. Donc on a un problème, parce que vous voyez que ce raisonnement d'ordre philosophique, qui pourrait paraître un truisme, finit par être un sophisme quand il s'agit de physique. Parce qu'on ne peut pas l'appliquer. Il ne nous dit rien. Il ne dit pas une erreur, mais il ne nous dit rien. C'est pour ça que l'erreur tout à l'heure était belle, parce qu'elle disait quand même quelque chose, elle avait un morceau de vérité. Alors, vous voyez, avec le problème donc des paradoxes conceptuels, c'est qu'on se demande finalement pourquoi la pensée a besoin des paradoxes. En réalité, c'est très simple. La pensée, quand elle se situe dans l'ordre de la majorité, n'est plus une pensée, c'est simplement une convention. Quand on est dans les conventions, on ne pense plus. On suit. La convention, il n'y a pas la convention. Donc, je vais vous donner un exemple de convention. Parce que Julie est inquiète, là, je vois. Alors, dans le domaine de la didactique, on a l'impression qu'en fait, on apprend des choses aux autres. J'ai l'impression qu'on... Alors, je vais essayer de vous montrer comment on peut ne rien apprendre, ne rien enseigner, et que tous les deux, on soit contre. J'imagine que j'ai un B. Il est invisible. C'est un dé normal. Il a 6 faces. Il n'a aucun problème. Imaginons que je prenne ce stylo et j'écrive ici un nombre. D'accord? De 1 à 6. Alors imaginons que je l'ai fait. Alors, je jette le dé. Et je vois. Qu'est-ce qui est tombé? Dites-moi. Trouvez-le. Vous pouvez le trouver, hein. Déception là, de la part de l'étudiant, de la part de l'élève, de la part du disciple, ce n'est pas le 6. Bon. Alors, autre essai. Comment ? Non, c'est pas forcément le dernier. Ne vous précipitez pas. Vous devriez lire La lenteur de Kundera. La lenteur, ça va avec la mémoire. La précipitation avec l'oubli. Le dé est invisible. Ma convention, en fait, c'est 5. Donc, dès que vous direz 5, je vous dis, bravo, vous avez trouvé. Je peux faire pire. Je peux faire pire. Parce que ça, en fait, si par exemple Julie est à côté de moi, je lui montrerai le papier 5, on est d'accord? Et si quelqu'un dans la salle disait 5, elle me dirait, il a gagné. C'est vrai. Mais là, on peut faire pire. Maintenant, je donne un autre papier vous inquiétez pas, c'est pas pour vous tout de suite, ça va être à la suivante pour vous. J'écris sur le papier, le troisième essai sera le bon. Alors là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas quel lieu de qui va gagner. Ni Julie, ni le public. Mais, au troisième essai, on sera tous d'accord que c'est bien le bon. On a réussi à faire un transport de structure et d'information sans aucune connaissance. Ça, j'essaie de vous le dire, en fait, ça peut paraître paradoxal, dit comme ça, mais là, je vais créer un autre paradoxe pour monsieur. Donc, avec amour, comment dire, en masse. Là, cette fois, j'écris pas au troisième essai, j'écris au septième. Alors, normalement, vous devrez perdre les cheveux en disant, mais c'est inadmissible, puisqu'il n'y a que six faces. Oui. Mais, c'est correct. Quand vous direz le septième essai, il sera bon. Donc là, vous serez choqué, vous, parce que vous direz, mais enfin, quand même, il n'y a que six faces dans un dé, ça ne peut pas être le septième, puisque je l'ai déjà dit. Mais si vous regardez en fait l'énoncé, eh bien vous verrez que c'est absolument correct. Ce qui serait surprenant maintenant, ce serait que je vous l'annonce, d'accord? Donc vous dites des nombres, on arrive au septième et je vous dis vous avez gagné. Et là vous devez trouver quelle est la règle écrite sur le papier. Il y a bien une solution. Alors ça j'essaie de vous le dire. Pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, quelque chose qui vous paraît totalement absurde, il faut essayer déjà de le déplacer, de le ramener au paradoxe. Donc, de l'absurde, on va d'abord au paradoxe. Du paradoxe, on peut aller à l'utopie, et ensuite on va à la réalité. Pourquoi? Parce que il n'y a que les utopies qui peuvent créer les réalités qui viennent. Ce que j'essaie de vous dire là, vous voyez, là on a eu une explication tous ensemble, on pourrait le prendre monsieur comme cobaye. Donc, essayez d'imaginer que je lui dise à ce monsieur, donc vous savez tous la règle qu'on a définie la dernière. Et je lui dis que, il m'écoute le monsieur. Très bien. Alors, imaginez que j'ai un dé invisible, je le jette, et je vous dis d'essayer de trouver la valeur. Donc, nous on s'est tous mis d'accord juste avant vous, pour être sûr que c'est un jeu effectivement juste, donc il y a bien une solution. Donc, essayez de trouver la valeur. C'est moi qui le jette. Voilà. Voilà le 6. Ce n'est pas le 6. D'ailleurs, même le public pourrait répondre à ma place, on est d'accord. Ce n'est pas le 6. Alors essayez encore.
C'est quand même perturbant. Or, vous
savez qu'en fait, il y a une explication, et l'explication n'est pas très compliquée. En fait, l'explication, c'est que sur le papier que j'avais écrit, c'est « le septième essai sera le bon ». Voilà. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, on aurait pris n'importe quelle personne comme victime, ce n'était pas spécifiquement pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, à un moment, il va se sentir dans la minorité en disant « mais comment c'est possible ?» Alors, vous voyez, c'est un travail. Nous, maintenant, si on était l'éducation nationale, eh bien, on saurait quel est le programme. Le programme, c'est ça. Et donc, lui, il serait élève, et d'un coup, on lui dirait, dans le programme, il y a ça, alors il essaierait de trouver les valeurs, voilà, et puis au bout d'un moment, il trouverait, c'est ça, c'est ce qui est écrit dans le programme. Et il se demanderait, mais comment est fabriqué ce programme? Voilà. Nous, on ne le fait pas du tout. Alors, pour vous dire, en fait, que le paradoxe, c'est un système très puissant pour aller à l'encontre de la majorité. Parce que le problème, si vous voyez, pour des certaines notions, c'est très délicat à définir. Alors, je vais vous donner un exemple concret, on a appelé ça aussi le paradoxe de Cantor. Jusqu'au 19e siècle, l'humanité est fascinée par l'infini. Jusqu'au 19e siècle, même dans le domaine de la philosophie, on ne dit que des inepties sur l'infini. C'est fou quand même, hein. Ça fait des siècles d'inepties. Jusqu'à ce qu'arrive Cantor. Alors Cantor va se poser une question vraiment perturbante. Il va dire, l'infini, vous voyez, pour nous, il est toujours potentiel. On tend vers l'infini. Et Cantor va se poser la question suivante. Et si on le touche? Si on l'atteint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Et Cantor, en fait, a démontré que si on touche l'infini, il y a une infinité d'infinis. Alors, essayez d'imaginer, en fait, que jusqu'au 19e siècle, l'humanité était fascinée par cet objet de l'infini, sans se rendre compte qu'il n'était pas unique. Et non seulement il n'est pas unique, mais c'est une véritable hiérarchie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les polynômes. Alors, quand vous avez fait... ou votre SUP, ou de votre HEC, ou je ne sais pas quoi, enfin l'équivalent, à un moment, on vous a parlé des polynômes. Alors là, vous me disiez, ben, c'est bien, les polynômes, c'est facile, c'est les fonctions les plus simples qui permettent de comprendre à peu près toutes les autres grâce à un développement de Taylor, Lagrange, etc. En réalité, non. Hein. Les polynômes, ils n'ont pas été faits pour ça, c'est une conséquence. Les polynômes, ils ont été faits pour hiérarchiser les infinis. En fait, si on vous l'annonçait comme ça, c'est sûr que vous aurez changé d'étude. Alors, pourquoi hiérarchiser les infinis? Parce qu'en fait, on se demande si les infinis sont de même taille. Par exemple, les entiers sont infinis, les réels sont infinis, mais ce n'est pas les mêmes infinis. Donc, on va passer, grâce à ce paradoxe, à ce qui est mesurable, ce qu'on peut compter, ce qui est énumérable. Vous voyez, l'ensemble des entiers, on peut le compter. L'ensemble des réels, on ne peut pas. Donc on peut compter les entiers relatifs, on peut même faire ça avec les nombres rationnels. C'est un peu plus perturbant, il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode de la diagonale, mais ça marche aussi, c'est isomorphe. Alors qu'en fait, on a un changement de phase entre les entiers, même rationnels, et les nombres réels. Là, il y a une immense différence, et cette immense différence, c'est ce qui va perturber en fait Cantor, et on va définir ce qu'on appelle le Aleph 1 et le Aleph 0. Le Aleph 0, ça va être le nombre d'éléments, alors que c'est infini, on va parler d'ordinaux et plus de cardinaux. C'est l'ordinal qui définit les entiers, alors que Aleph 1, c'est l'ordinal qui définit les entiers réels. Alors, un des grands problèmes des mathématiques, jusqu'en 1960, c'était de dire, entre ces deux infinis, est-ce qu'il y en a un autre? D'accord? Entre l'infini où je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5, je continue comme ça, et l'autre infini où c'est vraiment tous les réels. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? Eh bien, vous allez être surpris par la réponse. C'est une réponse qui est due à Cohen, qui a eu la médaille Fields, et qui l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, et qui a montré que si vous prenez l'axiomatique de Zermelo-Frankel, et l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux infinis, eh bien, le système est cohérent. Bon, voilà, vous dites, c'est bien, c'est bon, voilà. Mais il a dit aussi autre chose. Il a dit que si vous prenez l'axiomatique de Zermelo-Frankel et vous décidez que entre les deux infinis, il y a une infinité d'infinis, c'est aussi cohérent. Donc là, on retourne dans un principe qu'on appellerait, nous, gödelien, qui remonte en fait à l'aube de l'humanité en tant que programme. Ce qu'on voudrait en fait, c'est classifier toutes les connaissances. Donc on se dit, pour classifier les connaissances, on va partir des connaissances scientifiques. Les connaissances scientifiques, on va les ramener aux connaissances mathématiques, les mathématiques à l'arithmétique, l'arithmétique aux entiers. Alors les pythagoriciens avaient pensé à ça, et puis d'un seul coup, racine des deux est apparue, donc ça leur a cassé la baraque. Après, ils ont tout fait pour ne pas le divulguer, ils sont allés jusqu'à l'assassinat de certains disciples pour pas que ce soit divulgué, parce que vous imaginez, en fait, tout l'édifice s'effondre, parce que déjà, rien que les entiers n'arrivent même pas à trouver ce que c'est racine de 2. Mais bon, on sait faire maintenant, on est arrivé en fait à un moment au programme de Hilbert, et Hilbert voulait en fait axiomatiser l'ensemble de ses théories. En 1931, Gödel va démontrer son fameux théorème d'incomplétude, qui va vous dire en gros que plus un système est puissant, plus il contient de propositions qu'il ne sait pas démontrer. Attention, pas de propositions non démontrables. Mais il ne sait même pas démontrer si elles sont vraies ou si elles sont fausses, et on peut démontrer qu'il ne sait pas le démontrer. Je recommence. Par exemple, quand je dis, j'écris, je ne tue pas une phrase. Si je lis la phrase, et je considère qu'elle est vraie, quand je la lis, je prouve que ce n'est pas une phrase. Alors que j'ai considéré qu'elle était vraie. C'est-à-dire que si je considère que c'est vrai, alors elle est fausse. Si je considère qu'elle est fausse, alors elle est vraie. Ce qu'on appelle une proposition indécidable. Dans le langage humain, on a énormément de propositions indécidables. Les propositions autoréférentes font partie des plus simples. On peut faire plus court. Je mens. Point. Est-ce que la phrase est vraie ou fausse? Alors attention, hein. Ce n'est pas des problèmes de logique élémentaire. Parce que de logique élémentaire, je pourrais vous poser la question du genre quel est le contraire de tous les jours il fait beau? Ça, c'est de la logique élémentaire. La réponse est claire. C'est le contraire de tous les jours il fait beau. Comment? Voilà, c'est un jour il pleut. Ou plutôt, pour être plus précis, en fait, c'est un jour il fait beau, c'est tous les jours il ne fait pas beau, etc. Pour inverser, ne pas avoir simplement la pluie sur le soleil. C'est simplement un jour, c'est pas tous. On a une tendance naturelle à considérer que le contraire de tous les jours il fait beau, c'est tous les jours il fait mauvais. C'est faux. Ça, c'est de la logique du premier ordre. C'est très facile à faire, et c'est très facile à produire. Alors, dans la démonstration de Gödel, il a dit, imaginons que le raisonnement de Hilbert, qui est le raisonnement de tous les autres, c'est est-ce qu'on peut coder absolument tout? Alors lui il dit oui, et il va coder ce qui est en train de se coder. C'est-à-dire qu'au moment où vous codez vos connaissances, il code aussi cette connaissance en considérant, et en faisant l'erreur exprès, de considérer que c'est simplement une connaissance. Et donc là, vous allez avoir un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que comme vous allez injecter cette connaissance, qui est une métaconnaissance, dans les connaissances, vous avez la création d'un paradoxe. Et donc vous n'avez plus de phénomène de complétude, parce que ce n'est pas jouable. Alors ça, c'est un théorème très important au niveau mathématique, en 1931. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt pour la vie courante? Ça dépend si vous considérez que dans la vie courante, vous pensez. Si vous considérez que vous ne pensez pas dans la vie courante, n'a aucun intérêt. Si vous considérez que vous pensez, c'est un intérêt fondamental, ça veut dire qu'en fait, tous les systèmes que vous allez choisir pour définir une théorie ne seront jamais complets. Vous aurez toujours un problème qui sera en fait la liberté de choisir une différente axiomatique. Alors pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas accéder à la complétude. On a des théorèmes de complétude, mais pour des objets beaucoup plus simples. Alors par exemple, des propositions, donc ce qu'on appelle des propositions atomiques, P, Q, R. Vous prenez le P, la négation, l'équivalence, l'implication. Là, quelle que soit la phrase que vous allez écrire, vous pouvez toujours trouver un algorithme qui va vous dire que c'est vrai ou c'est faux. Dès que vous mettez des quantificateurs, universels ou existentiels, vous ne pouvez plus le faire. Vous êtes déjà dans le cadre de Gödel, vous ne pouvez pas gérer non plus de l'arithmétique. Et donc là, il faut décider. C'est soit vous allez faire et réfléchir dans ce domaine en vous disant que bien, votre système de pensée ne sera pas toujours complet, soit vous ne le ferez pas. Je reprends dans un cadre qui nous concerne plus dans l'appareil de justice. L'appareil de justice, il est fondé sur la loi. La loi, en fait, est fondée sur les principes. Les principes, il y en a un certain nombre. Donc, faites attention parce que là, ça va avoir des répercussions. Si vous pensez que le système est complet, ça veut dire que quel que soit l'acte, vous savez s'il est correct ou pas. On va dire correct ou pas, 0 ou 1, pour ne pas dire coupable ou innocent. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il existe un processus, donc le processus, pour nous, c'est très simple. Vous regardez le code, vous lisez, et l'algorithme va vous dire, voilà, il y a l'article temps qui dit ça. En réalité, vous êtes en train de reproduire la même erreur que le programme de Hilbert, qui pensait que tout est codable et qu'il suffit d'avoir l'équivalent d'un code avec une série d'articles pour définir l'ensemble des existants. En réalité, ceux qui font des mathématiques et de la logique savent très bien que c'est même pas une utopie de penser ça. C'est simplement une erreur. Puisque c'est à l'encontre du théorème de complétude. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que dans le langage humain, les phrases qui sont indécidables, dues à l'autoréférence, sont beaucoup plus importantes que dans un langage, si vous voulez, qui est quand même univoque, comme les mathématiques. Et donc, en fait, ce flou artistique, que vous décelez de temps en temps, et qui permet l'interprétation, en réalité, l'interprétation, comme on dit, de la même chose, c'est ce qui va vous permettre de sortir du cercle vicieux, parce que s'il n'y avait pas d'interprétation et c'était vrai ou faux, alors tout le monde devrait dire la même chose. Or, c'est manifestement faux. Mais en fait, on ne sait pas que c'est faux, parce que c'est fondamentalement faux. On a l'impression que c'est dû aux connaissances du juge, du jury, de l'avocat qui a influencé ou pas. Je reprends un problème pour ceux qui jouent au bridge, vous comprendrez. Le bridge est basé sur le hasard. D'accord ? Je pense que ceux qui disent non, c'est ceux qui jouent au bridge. C'est ça. C'est imparable. C'est un jour d'échec qui part. Alors, c'est normal parce que quand on a les jeux de cartes, on se dit, c'est très simple, c'est quand vous gagnez, vous dites je suis le plus fort. Et quand vous perdiez, vous dites, j'ai pas de peau. Il n'y a pas besoin de dire que c'est l'autre le plus fort. Voilà. Au jeu d'échecs, on a plus de difficultés, que tout est visible. Alors, en réalité, c'est quoi? Si vous voulez, donc maintenant, par exemple, donc imaginons qu'on ait une opposition. En fait, on pense à la même chose, vous allez le voir à la fin. Donc imaginons que moi, je dise que le brick est un jeu de hasard. Et donc, cette dame dit non. Donc, il faut faire un test. Alors, une façon de faire, c'est que si on continue juste à ce niveau de dialogue, on a une opposition, ça ne peut pas aller plus loin. En réalité, on peut avoir un jeu de hasard, mais pouvoir le certifier avec certitude. Je m'explique. Je prends en fait exactement le même jeu, je prends comment ils jouent. Donc les cartes, évidemment, ont été distribuées au hasard, mais le jeu ne va pas être le même en fonction du niveau des joueurs. Donc, de façon globale, on dira que j'ai raison parce que c'est un jeu de hasard étant donné que la distribution n'est pas dépendante du joueur. De façon locale, on dira que Notre-Dame a raison puisque sur le plan local, les stratégies vont être comparables. C'est exactement la même chose. Si vous jouez au jaquet, vous avez un jeu de dés. Si vous jouez au jeu de dés, c'est difficile de dire que vous ne faites pas du hasard. Mais vous allez voir que certains joueurs, avec le même coup de dés, jouent mieux que d'autres. Donc notre problème, en fait, c'est le local global. Et pas le hasard, certitude. En fait, on peut avoir du hasard au niveau global et au niveau local, avoir de la certitude. Parce que, en gros, si vous utilisez par exemple de la théorie de Ramsey, vous pouvez avoir une information quand vous n'avez aucune information. Alors, vous allez me dire comment on fait ça. Vous savez très bien, quand vous faites de la théorie de la décision, vous vous dites, si j'avais su plus de choses, j'aurais su qu'ils auraient fait ça. Bon. Mais ça, c'est une erreur, parce qu'il y aura toujours des choses qui vous manqueront. Donc, partez du principe que vous ne savez pas. Donc, je vous donne l'exemple précis. Ce qu'on appelle le problème des tiroirs. Alors, vous avez deux tiroirs et trois chaussettes. Moi, je peux les placer comme je veux. Donc, vous ne pouvez pas savoir, parce que je les place comme je veux. Je vous demande quand même de me dire qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que je vais faire. En gros, j'essaie de vous dire quelle est la maximalisation en termes d'information de la part de l'énoncé que vous pouvez obtenir en réfléchissant. Donc là, vous voyez bien que vous n'avez aucun accès à ce que je vais faire. Donc imaginons que j'ai les deux tiroirs ici. J'ai les trois chaussettes et je peux les distribuer comme je veux. Mais vous pouvez dire quand même quelque chose. Vous pouvez dire qu'il y a nécessairement un tiroir qui aura deux chaussettes. Indépendamment de ce que je vais faire. Donc pour le démontrer, la méthode de monsieur, l'exhaustivité, 3-0, 2-1, 1-2, 0-3. Vous voyez, en fait, il y a toujours un tiroir qui a deux chaussettes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en fait la théorie de Ramsey. La théorie de Ramsey vous permet d'avoir accès à des modes de connaissance quand vous savez dès le départ que c'est impossible d'en avoir stricto sensu, puisque c'est un problème qui est dû à un générateur aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas la distribution. Je vous donne un autre exemple qui peut vous paraître un peu étonnant. Si vous êtes dans une assemblée où ce qu'on appelle le paradoxe des anniversaires, quand vous avez plus de 23 personnes, vous avez plus d'une chance sur deux d'avoir deux personnes qui sont nées le même jour. Pas le même mois. Le même jour, vous avez plus d'une chance sur deux d'avoir deux personnes qui sont nées le même jour. Des fois, ça m'est arrivé de le dire en conférence. Et si vous prenez l'exemple ici, des fois, ça arrive même dans la conférence. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est que le consensus général, c'est de dire que ça, c'est pas normal, ça devrait être beaucoup plus petit.